Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Écho.
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 L'écho des coulisses.
Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité. Je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous ?
Bonjour. Je suis Arkman Urji. Normalement, vous deviez voir Benjamin Dubel ici. Il ne peut pas, pour l'instant, être avec vous. Je suis l'interprète, le personnage de La Caravelle et l'Oiseau Blanc, les spectacles de cette compagnie à carbone invisible.
Quel est votre parcours ?
Mon parcours est un peu particulier. Si vous voulez, je peux vous parler un peu du spectacle, du parcours de Benjamin, de pourquoi je suis ici. Benjamin Dubel est directeur de la compagnie Carbone Invisible. Lui est un comédien et metteur en scène et un magicien, illusionniste aussi. Il était intéressé pour montrer un spectacle qui parle des croyances surnaturelles. Et nous avons collaboré ensemble, nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé un petit peu de ce qui l'intéressait justement par rapport à ce sujet des croyances. Benjamin, lui, travaille en tant que comédien et metteur en scène dans différentes compagnies, en théâtre des rues aussi. Il est aussi professeur de théâtre. Et il m'a demandé d'être l'interprète, le personnage principal de ce spectacle, La Caravelle et l'Oiseau Blanc. Pour ma part, je suis, pourrait dire, conférencier, une sorte d'aventurier. Beaucoup de choses m'intéressent à ces sujets, le sujet de la croyance et du surnaturel. Mon parcours est atypique. Je ne suis pas moi-même comédien, je suis un personnage surnaturel pour ma part.
Alors, justement, vous faites de la comédie, de la magie. Ce sont des choses qui font rêver beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ?
Alors, la magie, en tout cas la magie telle qu'elle se manifeste dans le spectacle, il s'agit d'illusionnisme. Parce que la magie, dans différentes époques ou même différents endroits dans le monde, est considérée d'une manière différente. Aujourd'hui, la magie, ici, en France, dans l'Occident, nous faisons faire apparaître des pigeons ou découper des madames. Mais dans d'autres endroits, la magie n'est pas un divertissement, c'est quelque chose de très sérieux. On guérit des gens, on soigne des gens, on peut même jeter les malheurs sur les gens. Donc la magie est considérée différemment. Par rapport à la magie qui se manifeste dans les spectacles, c'est un mélange d'illusionnisme et des perceptions aussi de la réalité. La magie n'est pas utilisée directement comme illusionnisme, comme on le fait ici, mais plutôt dans la manière de percevoir les mondes. Je sais que c'est très mystérieux, hein, ce que je vous dis. Dans le spectacle, bon, il faut voir un petit peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses, finalement, qui se passent dans la tête des spectateurs, dans les yeux des spectateurs, dans la manière de voir ces spectacles et ce qu'on leur propose.
Alors, votre compagnie se nomme Carbone Invisible. Pourquoi ce nom en particulier ?
Il faudrait poser la question à Benjamin. C'est venu d'une blague, parce qu'il cherchait un nom de compagnie qui évoque la magie, l'illusion, et c'est en envoyant un email qu'il s'est dit « je vais l'envoyer en copie cachée à quelqu'un ». Vous savez, c'est copie cachée. Et le CCI, ça veut dire copie carbone en fait, pas copie cachée, copie carbone, avec les « i » invisibles. Donc quand vous envoyez un email à quelqu'un avec les CCI, ça veut dire « copie carbone invisible ». Et ça venait de là. Parce que, pour ma part, c'est ce que j'ai dit, mais c'est que les hasards, parfois, font bien les choses. Parfois, les hasards se manifestent de manière comme ça, devant nous, de manière imprévue et qui fait sens. Après, il y a aussi cette notion de carbone et invisible qui c'est intéressant parce que le carbone, c'est la base de tout ce qui existe, de la vie. Nous sommes des êtres de carbone, hein, c'est ce qui existe, les palpables, les réels. Et l'invisible a une notion un peu plus magique, surnaturelle. Donc les rapports entre le très concret scientifique et le surnaturel, carbone et invisible, étaient amusants pour un spectacle qui traite de la magie.
Très bien. Quels sont les autres membres de la compagnie et quelles autres disciplines peut-on y trouver ?
Alors, les membres de la compagnie, donc là sur ce spectacle, il y a moi-même, Arkman, Benjamin Dubel, aussi qui est le directeur de cette compagnie. Il y a aussi Marine Jardin qui intervient dans la mise en scène. Il y a Lise Lagrifoule qui est la chargée des diffusions, des productions, ainsi qu'Aurora de Fite de Garias qui est la chargée des productions aussi et administration de la compagnie. Et plusieurs personnes ont travaillé autour aussi de ce spectacle-là, dans la technique, dans la magie, dans la mise en scène, dans la construction aussi des petits accessoires, des petites choses. Mais ce sont des personnes qui ne font pas directement partie de la compagnie, ce sont des personnes un peu extérieures qui ont travaillé pour ce projet. Concernant les différentes disciplines, la volonté est d'utiliser et de détourner les techniques d'illusion, mais c'est aussi du théâtre. L'art de la parole est utilisé. Il y a une écriture que nous avons mise en commun avec Benjamin. Nous avons écrit ensemble à partir des réflexions et d'improvisations. Donc le théâtre est très présent, ça parle beaucoup, hein. Il y a quelque chose au niveau de la dramaturgie qu'on pourrait retrouver aussi dans les arts de la rue, parce qu'il y a une interaction avec les spectateurs, la réflexion sur le lieu de la représentation aussi, et raison sur la place du spectateur. Et cette dramaturgie, on peut la retrouver bien entendu au théâtre ou dans les cirques, mais aussi dans les arts de la rue. Même si ce spectacle ne peut pas se jouer en extérieur, qu'il se joue seulement en intérieur, il y a c'est un mot compliqué, les transdisciplinarités. C'est ça, j'ai réussi à le dire une fois. Il y a ce mélange des disciplines. Oui.
Comment vous est venue l'envie de faire ce spectacle ?
L'envie est venue vraiment de Benjamin au départ. Et en ces rencontrants, nous nous sommes retrouvés. Il y avait vraiment quelque chose en commun, hein, qu'on avait envie de discuter. C'est l'envie de parler de notre rapport au réel, de dire que la réalité, ça n'existe pas. Je sais que c'est un concept qui peut être troublant, mais la réalité n'existe pas parce que la réalité est multiple. Je vous explique juste rapidement, même si vous pourrez les retrouver dans le spectacle parce qu'on en parle. Il y a deux concepts, le réel et la réalité. Le réel, c'est ce qui existe, hein, ce qui est, et la réalité, c'est notre perception du réel. Donc elle est propre à chacun, elle est différente selon les personnes. Donc la réalité n'existe pas, elle n'est pas unique, elle est multiple selon les nombres d'individus qu'il y a sur la planète. Et l'envie, c'était de parler de cela, de dire aux gens, eh bien, nous vivons tous dans des réalités différentes, et il faut bien qu'on arrive à s'accorder, à se comprendre pour vivre ensemble. Et on avait envie de faire des expériences, de détourner la réalité, de se rendre compte que tout cela, ce n'est qu'une illusion, et s'emparer de l'outil de l'illusionnisme pour parler de cela. C'est un outil très intéressant, forcément pour parler aussi des manipulations et tout cela.
Pour faire ces spectacles, est-ce que vous avez des inspirations particulières pour les créer ?
Oui, il y a beaucoup d'inspirations différentes. Il y a dans le théâtre des rues, dans la magie. Il y a un magicien, par exemple, qui est très intéressant, qui s'appelle Derren Brown. Il y a le travail de certaines compagnies, je pense à la compagnie In Extremis, qui a un travail avec les surprises dans le public, qui est très intéressant. Voilà, après, ce sont des lectures, ça peut être aussi de la musique, mais il y a beaucoup d'inspiration du monde fantastique, les films et les séries aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films d'horreur, des fantastiques, et tout cela, c'est une grande inspiration. Nous avons aussi envie un peu de faire peur.
Alors justement, dans ce spectacle, il y a plusieurs disciplines, donc le mentalisme, l'illusionnisme et aussi ce qu'on appelle la magie nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
La magie nouvelle, alors ça c'est intéressant. La magie nouvelle, c'est un courant artistique. C'est une manière de rajouter, pour faire simple, hein, de la dramaturgie dans la magie. Comme je le disais, bon, il y a des choses très intéressantes dans ce que l'on appelle la magie moderne, donc les madames qu'on découpe, hein, ou les spectacles comme ça, un peu music hall. Et la magie nouvelle est un petit peu comme les nouveaux cirques, les cirques actuels, la danse contemporaine par rapport à la danse, je ne sais pas, la danse folklorique par exemple. L'idée, c'est de raconter une histoire, servir un propos, un univers, et plus que d'être dans la démonstration des prouesses incroyables. Nous sommes dans la démonstration des prouesses incroyables, mais tout cela au service d'un propos, d'une idée, et l'idée des dramaturgies, des pensées, les spectacles, où est-ce qu'on va, à qui est-ce qu'on s'adresse, tout cela en fait partie. C'est un mouvement qui existe depuis, je dirais, 20 ans à peu près. C'est la compagnie 1420 qui a créé ces mouvements-là. Et petit à petit, les cirques s'en est emparés, puisque la magie, la prestidigitation, c'était aussi une discipline du cirque. Donc aujourd'hui, on retrouve beaucoup de la magie nouvelle, ou en tout cas des compagnies des cirques qui font des spectacles des magies nouvelles. Mais on en trouve aussi un peu dans les théâtres et dans l'opéra aussi.
Quand on est magicien, on interagit beaucoup avec le public. Par rapport à ça, qu'est-ce qui vous plaît dans l'approche avec le public ?
En effet, dans ce type de spectacles, l'idée c'est... Si la magie, c'est le détournement du réel à l'intérieur du réel, il faut être avec les spectateurs au même endroit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, les spectateurs ne sont pas en face d'une scène de théâtre où se joue une fiction. Tout le monde sait que c'est une fiction. Là, le spectacle vient dans la réalité du spectateur. C'est là que c'est possible de détourner la réalité. Sinon, ça reste des effets spéciaux comme au cinéma. On sait que c'est faux. Ce qui est amusant dans l'illusionnisme, c'est de penser que c'est vrai. Après, dans ce spectacle, il y a des choses qui sont vraies. C'est un mélange entre les deux. Nous sommes toujours dans une ambiguïté entre la mise en scène, la manipulation et qu'est-ce qui se passe qui peut être véridique. L'interaction, après, vraiment, avec les spectateurs, c'est quelque chose d'amusant parce que ça crée toujours des imprévus. Et donc, il faut toujours être prêt à changer quelque chose, à rebondir. Et ça crée une légère tension qui est amusante pour un interprète. C'est quelque chose aussi qui vient beaucoup des arts de la rue où il y a beaucoup d'interactions. Voilà, on s'amuse beaucoup à ça et on joue aussi vraiment sur les imprévus, c'est-à-dire que les spectacles aléatoires, c'est qu'il peut changer. Le dénouement peut être très différent selon ce qui se passe. L'idée, c'est de présenter différentes fables, différentes histoires, différentes expériences avec les spectateurs. Mais selon ce qui se passe, nous allons prendre un chemin ou un autre. Donc, vous pouvez voir les spectacles 2 fois, 3 fois ou 15 fois, il sera toujours différent.
Justement, en amont de ça, si vous avez affaire à un public un peu plus spécifique, notamment un public déficient visuel, j'entends par là malvoyant ou non-voyant, aveugle, est-ce que vous avez une approche différente, une façon de procéder différente ? Du fait qu'ils ne peuvent pas vous voir, ils ne peuvent que vous entendre. Donc le visuel n'entre pas en compte.
C'est une question très intéressante. Je vous avoue qu'on ne se l'est pas posé. Je serais curieux de savoir comment le spectacle est perçu par une personne qui ne voit pas. Il y a beaucoup de textes dans le spectacle. Peut-être que le texte est intéressant, mais il y a beaucoup de choses quand même qui passent par le fait de voir. Même s'il y a des choses qui sont de l'ordre de la perception sensorielle, les non-voyants ne verront pas ce qui se passe sur l'espace de jeu, à moins qu'ils les vivent lui-même, ce qui serait intéressant d'ailleurs. C'est que les non-voyants soient avec moi à un moment donné pour l'expérience, pour ressentir ce qui se passe et non les voir. Ce serait intéressant. J'ai réfléchi en même temps, hein, parce que je ne me suis pas posé la question, mais ce serait intéressant de les percevoir, parce qu'il y a certaines choses en même temps que quand j'ai fait venir des spectateurs sur l'espace des jeux, où je les demande de fermer les yeux. Donc, parce que c'est des choses qui se passent dans les sensations. Donc, je pense que pour une personne qui ne voit pas, il pourrait y avoir des choses, en tout cas à vivre, plutôt qu'à être spectateur. Voilà, je vous avoue que c'est une question intéressante. Il faudrait que je me penche un petit peu plus dessus.
Oui, l'effet n'est pas le même parce que le ressenti est différent.
Oui. Il est nécessaire en tout cas de fermer les yeux pour les spectateurs voyants qui viennent vivre l'expérience. Il est nécessaire qu'ils ferment les yeux. Mais la personne qui a les yeux fermés ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer. Les spectateurs qui sont en face sont témoins de ça. Qu'il y a une sorte de double réalité à ce moment-là entre ce qui est perçu par le spectateur qui vit la chose et le spectateur qui regarde. C'est intéressant. Il m'est arrivé déjà de faire des spectacles avec des spectateurs qui ne voyaient pas et qui me disent que c'est intéressant d'entendre ce qui se passe, d'essayer d'imaginer ce qui se passe. Mais c'est vrai que la plupart du temps, nous nous posons la question d'un point de vue visuel. Oui, en effet, oui. C'est que nous pensons pas spécialement aux spectateurs, des spectateurs qui n'entendent pas ou qui ne voient pas. C'est vrai que nous n'y pensons pas. Et ce serait l'objet d'une création en particulier. Et ça pourrait être intéressant, vraiment, d'aller chercher qu'est-ce qui serait intéressant. Il faudrait travailler avec des personnes qui, elles-mêmes, ne voient pas ou n'entendent pas, pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant pour eux au niveau sensitif, de ressentir dans un spectacle qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne peut pas entendre.
Je suis moi-même non-voyant de cette question.
Oui, je comprends bien, mais peut-être pourrions-nous en discuter pour savoir comment est-ce que vous pourriez vous percevez les spectacles.
Lorsque vous faites un spectacle, est-ce que vous avez le trac et est-ce que vous avez des conseils ou des astuces pour ne pas l'avoir?
Pardon, je tape partout. Oui, c'est parce que c'est les tracs qui se manifestent. Oui, j'ai les tracs. Ça dépend aussi des spectacles. Sur des spectacles que je connais moins bien, je vais avoir plus des tracks. Et sur des spectacles que je joue, que j'ai déjà joué, j'aurai moins les tracks. Je pense que les tracks, c'est aussi un moteur. Il ne faut pas que ce soit un stress qui paralyse, qui immobilise, mais c'est l'envie de bien faire aussi. Nous sommes devant des spectateurs, nous voulons que ça se passe bien, nous avons peur d'être jugés, etc., etc. Bon, si ça devient maladif à ce moment-là, je ne sais pas, il faut prendre des cachets, je ne sais pas. Mais en tout cas, les tracks peuvent être la plupart du temps une bonne chose pour rester concentré. Il ne faut pas trembler et tout ça. Et que des conseils pour ne pas l'avoir, non, je pense qu'il faut avoir la traque, mais pas trop. Une des choses importantes, c'est de bien connaître son spectacle, c'est-à-dire d'être sûr de l'avoir suffisamment travaillé, répété, de savoir ce que l'on fait vraiment parfaitement pour ne pas avoir des zones, des flous. S'il y a un texte à apprendre, il faut bien l'apprendre. Et après, c'est peut-être savoir se relaxer aussi. Arriver à faire un petit peu les vides, c'est respirer, savoir prendre du temps aussi pour soi et ne pas se disperser dans plein de choses différentes et se sentir prêt. Et savoir que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça se passera bien. Parce que même s'il y a des imprévus et des accidents, eh ben c'est pas grave. Les spectateurs adorent les imprévus et les accidents. Et pour eux, ce serait un bon moment. Je ne saurais pas quoi dire de plus sur les tracks.
Justement, c'est là que peut être le problème parfois, c'est que le track peut provoquer des trous de mémoire. Même si on connaît parfaitement son texte, des fois on peut avoir un trou. Et alors là, souvent, ce qui se fait en général, je ne sais pas pour vous, c'est qu'on peut jouer sur le fait exprès, faire croire que c'est un fait exprès pour justement ne pas donner l'impression que c'est le trac qui bloque.
Alors, apparemment, il y avait un comédien qui faisait ça, qui faisait semblant, lui, d'avoir des trous, des mémoires. C'était Jean Lefebvre qui faisait ça. Et les publics riaient beaucoup. Bon, après, c'est en effet, s'il y a trou des mémoires, les publics ne les savent pas forcément. Et donc, il faut arriver à trouver un moyen de se rattraper. Si on est avec des partenaires des jeux, si les partenaires ils sont gentils, ils peuvent aussi aider à la réplique, et dire la réplique à la place de l'autre. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir des petites astuces. Et après, quand on est tout seul sur scène, eh bien, je pense que la meilleure chose, c'est de vraiment bien savoir bien connaître les spectacles pour ne pas avoir des trous. Et s'il y en a, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Alors justement, le trac, vous avez dit tout à l'heure que c'était bien d'en avoir quand même un peu. Est-ce que vous pensez que, justement, si on n'a plus du tout de trac au bout d'un moment, c'est peut-être parce que, on n'est plus, peut-être habité par ce domaine-là?
Peut-être, si on monte sur la scène en ayant l'impression de juste faire son travail et qu'on s'en fiche, peut-être en effet il faut changer de métier s'il n'y a plus les feux intérieurs. Et juste pour le trac, alors pour finir sur ce que vous disiez, il y a une citation que j'ai trouvée amusante que l'on prête à Sarah Bernhardt. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est Sarah Bernhardt qui demande à une de ses élèves: Mademoiselle, avez-vous les tracs? Et la mademoiselle dit: Non, je n'ai pas les tracs. Sarah Bernhardt lui répond: Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec les talents.
Je continue sur le track, justement. Vous, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un spectacle qui change au fur et à mesure des jours. On peut venir une fois et revenir le lendemain, et il y a des, ce ne sera pas forcément le même spectacle en fonction du public et de ce qui se passe. Est-ce que, justement, vous avez peut-être peur, ou maintenant vous arrivez vraiment à le maîtriser, ou...
Sur ces changements-là, sur les imprévus. Alors là, nous sommes dans une étape de la création de ces spectacles. Donc il n'est pas maîtrisé. C'est une sorte de canevas où nous faisons plein d'expériences, parfois pas toujours dans les mêmes ordres, et parfois nous changeons, nous rajoutons, nous enlevons. Nous avons, enfin moi en tout cas, lorsque je suis sur scène, j'ai une possibilité. Je ne vais pas dire infini, mais une grande possibilité des changements et des choses nouvelles. Là, pour l'instant, le spectacle officiellement n'est pas sorti. Et ce sont des étapes de création à chaque fois. On montre un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et donc, on fait des choses différentes à chaque fois pour voir ce qui est intéressant, donc qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Mais il y a tellement d'aléatoires dans ce spectacle que j'ai l'impression qu'il ne sera jamais terminé. Il faut qu'il soit terminé en vrai dans un an à peu près. Et à chaque fois qu'il va se jouer, il sera différent. Et moi, je n'ai pas peur de ça parce que les gens comprennent que ce n'est pas un spectacle habituel, que nous sommes tous au même endroit, que nous allons faire des expériences. Nous savons à peu près combien de temps ça va durer, à peu près. Bon. Mais nous ne sommes pas au théâtre, nous ne savons pas que ça va durer 55 minutes et qu'il y a acte 1 et acte 2. Bon, nous connaissons les principes et ensuite nous avançons. C'est quelque chose d'évolutif.
J'aimerais revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure lorsque nous parlions de l'inspiration. Sur votre site, dans le synopsis du spectacle, il y a une phrase qui dit: C'est comme passer une soirée avec Harry Potter. Est-ce qu'il y a un lien d'inspiration qui passe par là, justement, puisque vous évoquez Harry Potter, qui est quand même un peu la base en termes de magie, on va dire, dans l'univers du fantastique, du monde magique et fantastique. Justement, est-ce que vous avez une part d'inspiration venue de là, ou c'est simplement un exemple dans le synopsis?
Je ne sais pas s'il y a inspiration, vraiment. Je pense que Harry Potter, il est inspiré de moi. il est inspiré. Je le connais bien, c'est pas un très grand magicien. Non, je plaisante, mais Harry Potter est inspiré de l'univers magique, de la sorcellerie, de la magie, de différentes manières aussi, pas seulement de l'illusionnisme, mais de la magie presque au sens premier, de magie ésotérique et surnaturelle. Donc nous avons la même inspiration, nous allons parler de magie. Je ne pense pas que vous retrouviez des références directes à Harry Potter, mais Harry Potter s'est beaucoup servi de mes références.
Alors du coup, par rapport à ce spectacle, quelles sont vos prochaines dates ou représentations et où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur la compagnie et puis sur ce que vous faites ?
Donc là, il y a les présentations aux bijoux pour la nuit du cirque le 13 novembre à 18h et à 20h. Et ensuite, il y a une autre résidence qui aura lieu en avril à Paris, à la Villette, au Magic VIP. Et le spectacle sortira l'année prochaine. Il y a d'autres petits endroits aussi où il y aura des présentations, des essais, mais parfois même chez des particuliers. Si vous voulez m'inviter à la maison, je peux venir si vous avez envie. Et vous pouvez prendre les renseignements là pour l'instant sur le site de la grainerie, sur le site du bijou où nous allons jouer et de la nuit du cirque. Et sur les sites internet de la compagnie Carbone Invisible, c'est, je crois, www.carbone-invisible.com. Il y a un Facebook aussi. Et vous pouvez suivre nous des noms, des nouvelles de temps en temps.
Bien, ben merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les informations du coup sur le site internet de Carbone Invisible et puis sur Facebook. Ben merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Voilà, et puis à bientôt.
À bientôt, merci
à
beaucoup.
Au revoir.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Écho.
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 L'écho des coulisses.